Bonjour à chacun. Dans notre langage chrétien habituel, il y a des expressions qui nous sont familières et qui nous semblent acquises, mais pour lesquelles il est parfois important de se rappeler les bases et la signification profonde et pratique, surtout pour tous les jours de notre vie. Ainsi, suite à nos réflexions et remises en question de ce printemps, à la plus grande place à laisser à l'Esprit Saint dans nos vies, et dans la suite de notre réflexion aussi sur les promesses de Dieu, il me semble intéressant de reprendre ce matin, tout à fait succinctement, quelques notions de base autour de la vie éternelle. Idée difficile à saisir en parlant de quelque chose qui est destiné à durer sans fin, à jamais. Alors d'abord, quelques références bibliques, quelques passages bibliques où on nous parle de la vie éternelle, dans différents sens d'ailleurs. 1 Jean 2, 25. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Luc 18, 18, vous allez retrouver en entendant le passage où ça se situe, un chef interroge à Jésus et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Romains 6, 22, « Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » C'est curieux de donner pour fin quelque chose qui dure à jamais. Pour finalité, on va dire. Jean 6, 27, « Travaillez non pour de la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. » Et puis ce passage, ce verset de Romains 6, 23, qu'on connaît bien, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Voilà des textes qu'on connaît, des versets qu'on connaît. Dieu, encore un verset qu'on connaît, a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, verset 11. C'est un verset qui m'a toujours frappé. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Historiquement, toutes les civilisations, tous les peuples ont cette croyance de quelque chose au-delà, de quelque chose après, qui dure d'ailleurs. Même les athées, même ceux qui ne croient pas en une divinité. On va prendre deux exemples, les pyramides d'Égypte. Pour quand elle était construite, si ce n'est pour passer de la vie à l'au-delà. Et ça allait durer, puisqu'on mettait aussi la nourriture qui allait avec, à l'intérieur. Donc pour quelque chose qui allait durer. Et puis, plus curieusement, plus près de nous, le testament du révolutionnaire Ho Chi Minh, Nord-Vietnam, lors de ses obsèques, qu'il a été lu en 1969, devant toutes les personnalités du monde communiste, tous réunis ici, où il a été lu, écoutez bien, « Je vais retrouver les camarades Marx, Lénine et Engels. » Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'humanité. Je ne fais pas de politique, hein. Cette croyance est vraiment universelle. Nous, quand nous pensons à vie éternelle, nous la mettons souvent en relation avec la mort. C'est-à-dire que d'un côté, on dit « vie terrestre », et de l'autre côté, vie éternelle. Ou encore plus tôt, d'ailleurs, d'un côté la vie terrestre, la mort et la vie éternelle. C'est un peu comme ça qu'on a toujours souvent conçu dans le passé cette notion. Et si l'on s'arrête à cette idée seule, pour résumer ce qu'est la vie éternelle, on se méprend totalement dans son sens, dans son état et sur son contenu. Et c'est ce que j'aimerais ce matin préciser. Quitte peut-être à nous bousculer un petit peu dans nos croyances, dans nos idées, dans notre habitude, dans notre routine. Certains théologiens définissent la vie éternelle comme une sorte de quatrième dimension, échappant aux notions de commencement et de fin, où jour, mois, année n'auraient plus aucun sens. Ça n'a rien à voir avec les vies qu'on a dans les jeux vidéo, hein. On n'a pas toujours des vies qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Non. Mais enfin, il y a cette quatrième dimension donc, chez certains théologiens. D'autres la considèrent comme un temps échappant à la tombe. c'est-à-dire où la vie ne serait plus touchée par la mort physique. D'autres encore comme une échappatoire à une existence sans perspective, sans avenir, pour enfin être avec Dieu. Toutes différentes qu'elles soient, ces théories ont un point en commun. Elles définissent la vie éternelle dans le terme d'échapper à quelque chose. Mais Jean définit la vie éternelle d'une façon très différente, une approche qui prend tout un autre relief pour notre vie pratique. Et vous connaissez ce verset. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 3, 17. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est dans ce verset 3 de Jean 17 que se trouve la clé de notre compréhension. La vie éternelle est la connaissance. Et il faut revenir ici à des notions beaucoup plus loin, dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, où la connaissance, il nous est dit, était l'arbre de la vie, était aussi la racine de l'immortalité. Arbre de la vie, racine de l'immortalité. On a déjà la notion de l'éternité. La connaissance était le moyen de la vertu. Adam a été appelé à connaître sa femme, c'est-à-dire à avoir avec elle la communion la plus intime dans les termes d'esprit et de corps qu'il était possible d'avoir avec le vis-à-vis que Dieu lui avait créé. Et de même pour Jean, et c'est ici l'enseignement que donne l'Écriture, la vie éternelle, c'est connaître Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Dieu, c'est-à-dire avoir avec lui le rapport personnel le plus profond, le plus totalement intégré, et donc vivre en l'exprimant dans nos actions, qui respectent ainsi sa volonté, puisque c'est la vie qu'il nous a donnée. Pour être plus précis encore, la connaissance de Dieu dans le sens biblique signifie savoir que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et de Jacob, le Dieu de l'Écriture, le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ est l'unique, le vrai, le vivant, et qu'il n'y en a pas d'autre. Connaître Dieu dans le sens biblique signifie voir, reconnaître, intégrer, assimiler, prenez les mots qui vous touchent le plus, Dieu comme le créateur de toutes choses, comme l'unique au-dessus et au-delà de tout. Et cela va bien plus loin que l'image simple de rester béat devant la création ou devant les beautés que Dieu peut avoir mis devant nos yeux. Connaître Dieu dans le sens biblique, c'est aussi reconnaître et le reconnaître tel qu'il s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. La meilleure façon d'être intime avec Dieu, c'est d'abord d'être intime avec le Christ, notre frère. Nous sommes frères en Christ. Il devient alors évident que cette perspective de connaître Dieu ne se réfère ni ne se limite à l'avenir, à demain seulement, après la vie terrestre, mais aussi et surtout à maintenant. Au présent, au moment de notre vie que nous vivons. Dans le Nouveau Testament, deux mots en grec nous donnent une traduction du même mot, du mot vie. Quand nous lisons vie dans nos traductions françaises, ça vient de deux mots différents. Il est intéressant de rechercher quels sont ces deux mots. Alors ces deux mots en grec, ce sont bios, bio. Ça vous dit quelque chose, ça vous parle, bio, tout le monde sait, voilà, c'est bon. Et zoa, ça on sait un peu moins. Bios désigne la vie biologique, la vie terrestre, celle de l'homme ou de toute autre créature. Il y a aussi la vie des animaux dans bios. Job, qui connaît la valeur de la vie, utilise un raccourci intéressant. Au chapitre 14, les versets 1 et 2, l'homme n'est rien d'autre que l'enfant de la femme. C'est un peu restrictif. Hein. L'homme n'est rien d'autre que l'enfant de la femme, sa vie sera donc brève et remplie de tourments. Comme la fleur, elle s'épanouit, puis se fane. Comme l'ombre, il passe, il est bientôt parti. C'est triste, hein ? Adolf Reist, essayiste allemand, a défini la vie terrestre comme ceci. Une fosse commune de tous les espoirs et de toutes les déceptions. Cela correspond malheureusement au pessimisme ambiant de notre monde, au manque de projection dans l'avenir de notre humanité actuelle en général, et pourtant Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est curieux. Mais à nous croyants, la Bible nous donne de la vie une toute autre perspective. Chez tous ceux qui découvrent cette vie comme un merveilleux don de Dieu et qui la consacrent à suivre le Seigneur, elle prend une toute autre dimension. Elle correspond au mot grec « zoa ». « Zoa », c'est la vie de Dieu, c'est la vie abondante, c'est la vie réelle, la plus réelle qui soit, la plus palpable qui soit, c'est la vie éternelle, la vie avec Dieu. Jean affirme, Jean 14, 6, « Je suis la vie éternelle », c'est le mot grec « zoa ». L'apôtre Jean identifie lui aussi la vie éternelle à Jésus lorsqu'il écrit « Quand cette vie, le mot « zoa », est apparue, nous l'avons vue ». C'est pourquoi nous vous en parlons et nous vous annonçons que la vie éternelle, Zoa, est auprès du Père et nous a été révélée en lui. Jean 1, verset 2. Celui qui croit au Seigneur Jésus et le reçoit comme Seigneur et Sauveur, reçoit et possède donc du même coup la vie éternelle. Du même coup. Pas dans X temps, du même coup. 1 Jean 5,12. Celui qui a le Fils en lui, celui qui a le Fils a la vie. C'est-à-dire celui qui connaît le Fils a déjà accès à la vie. Éternelle, Zoa. Ainsi, notre vie présente, actuelle, aujourd'hui, notre vie de chrétien repose déjà sur ce fondement éternel. Cela nous aide à comprendre peut-être aussi pourquoi et comment, et nous en parlons souvent dans nos prières, dans nos réflexions, à cause de leur foi en Jésus, tant de croyants dans l'histoire et encore actuellement ont enduré la persécution, la prison, la torture, la méprise et même la mort sans renier le Seigneur. Ils vivaient déjà dans cette autre relation de vie avec leur Dieu. Cette autre relation, cette vie éternelle, qui sera bien entendu manifestée complètement après la résurrection. Et c'est là tout l'enjeu de la foi, toute la compréhension du déjà et du pas encore. Dans la vie présente, nous n'avons pas seulement la promesse d'une vie éternelle future, ultérieure, non, nous sommes déjà participants de la plénitude, de la nature et de la gloire de Dieu et de Jésus-Christ. Et quand la foi fera place à la vue, alors nous contemplerons face à face le Seigneur Jésus et son Père, notre Dieu. Beaucoup de gens qui dorment, Daniel 12:2, beaucoup de gens qui dorment au fond de la tombe se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. La Bible dit clairement qu'il n'y a que deux façons de passer l'éternité. Dans la vie éternelle, ou dans la perdition éternelle. Et la fin de notre verset de 1 Jean 5, 12 le confirme, celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Christ, le Fils de Dieu, a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. C'est pourquoi la plus grande perte de l'homme consiste à vivre sans Jésus-Christ et à mourir sans Jésus-Christ. Jean 3, 15, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. La vie éternelle ne nous est donc pas accordée simplement ou seulement après la mort, mais au moment même où nous nous convertissons, au moment même où nous donnons à Dieu les clés de notre vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, Jean 3,36. Notre foi porte le sceau et la résurrection, de la résurrection de Jésus d'entre les morts, et repose donc sur ce fondement fort, assuré et inébranlable. Dieu tient beaucoup, notre Dieu tient beaucoup à ce que nous ayons cette assurance ancrée au fond de nous. 1 Jean 5,13, « Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez, c'est du présent, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors qu'est-ce que ça change dans notre vie? Eh bien, nous vivons désormais dans une autre économie. Une nouvelle relation avec Dieu, avec les hommes. Rappelez-vous les phrases qu'on prononce souvent. Nous parlons de nouvelle vie lors de la conversion, de marcher en nouveauté de vie, de suivre Dieu, d'évangélisation, d'évangile, de sanctification. Tous ces mots traitent de la même chose, de vivre la vie éternelle. Cette vie qui échappe à nos notions de vie terrestre ou de mort, mais se contente et se nourrit au quotidien de la connaissance vraie et intime de Dieu. Paul parle autre part de la sagesse cachée de Dieu, révélée par l'Esprit déjà sur terre à ceux qu'il aime. 1 Corinthiens 2,9 « Ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. » Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Combien plus ces paroles peuvent s'appliquer à la gloire de Dieu encore invisible pour nous aujourd'hui et demain au ciel. Une fois qu'on a pleinement compris cette signification de la vie à la lumière de la révélation de Dieu, cela nous éclaire sur notre compréhension de nous-mêmes. Qu'est-ce que je fais ici? Notre mission? Qu'est-ce que Dieu demande de moi? Notre rôle? Celui que nous avons à jouer dans ce temps? Est-ce que je suis bien à ma place? Ce temps où Dieu nous donne de vivre maintenant avec cette vie qui vient de lui. Calvin disait qu'aucun homme n'est capable d'arriver à la vraie connaissance de lui-même sans avoir d'abord contemplé Dieu. On n'est pas capable d'arriver à nous connaître nous-mêmes si on n'a pas encore contemplé Dieu. Il faut dire que c'est lui qui nous a créés, simplement. En effet, en élevant nos pensées vers Dieu, nous considérons sa nature, et là j'ai mis un grand S, majuscule dans mon texte, sa nature et la perfection de sa vertu, de sa sagesse, et nous réalisons pleinement qui nous sommes, des pécheurs, oui, mais des pécheurs rachetés, et surtout ses enfants bien-aimés. Connaître Dieu nous permet une compréhension correcte des rapports que nous sommes appelés à avoir avec notre prochain, là où Dieu nous a placés. Vive l'Évangile, c'est vivre déjà dans la vie éternelle aujourd'hui. Pratiquement, après avoir connu la vérité de Dieu et le rôle que nous devons jouer dans notre vie, il ne nous est plus possible de vivre dans une situation qui contredit outrement la vérité. L'ambiguïté, le mensonge, la malice, la méchanceté, la mauvaise foi sont des comportements qui contredisent totalement la vérité et rendent les êtres humains esclaves de l'ignorance et des préjugés. Ils n'ont pas de place dans la vie éternelle. Ils n'ont pas de place dans la vie avec Dieu, la vie éternelle. Jean le rappelle aux Galates, les œuvres de la chair sont manifestes. Galates 5,19, ce sont l'impudicité, l'impureté, il y en a une drôle de liste, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà lu toute la liste, mais il y a une drôle de liste. Hein. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il n'y a pas de point de suspension, mais j'ai envie de mettre un point de suspension et nous connaissons. Je vous le dis d'avance, J'ai dit Jean, c'est Paul, hein, vous avez relevé. Je vous le dis d'avance, dit Paul, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais Jean termine avec ce texte, mais le fruit de l'esprit de vie, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. J'aimerais terminer par deux exemples d'hommes de Dieu. C'est des exemples, je les ai voulu exprès extrêmes. Peut-être qu'ils vont vous choquer, choses qui vont vous choquer dedans. Mais c'est deux personnages extrêmes qui datent de très longtemps et qui, curieusement, sont contemporains. J'ai découvert ça en cherchant les dates de naissance et de mort. Deux exemples dont on peut dire qu'ils ont vécu cette vie éternelle avec Dieu sur terre, par leur choix. Le premier, c'est Pierre Valdo. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, Pierre Valdo, pré-réformateur, richissime commerçant de textiles à Lyon. Frappé par la mort subite de l'un de ses amis lors d'une soirée de débauche, vous avez bien entendu, auquel il se livrait régulièrement, il décide vers 1170 de renoncer au monde et abandonne femme et enfants. C'est dur, hein, très très dur. Il vend tous ses biens, partage sa fortune en quatre parts, une immense fortune, hein, en quatre parts. Une part pour sa femme, une part pour ses enfants, une part pour les personnes qui pensent avoir lésé dans son commerce, et une part pour les pauvres. Il va vivre désormais dans le plus grand dépouillement et travailler uniquement à son salut, se conformant ainsi à la parabole du jeune homme riche. Il se fit traduire, très rare, en langue d'oc les évangiles, décida de prêcher la bonne parole toute sa vie. C'est le fondateur des églises vaudoises qui ont été réfugiées et persécutées au Piémont italien. Pierre Valdo, vous pouvez chercher des renseignements, sa vie c'est hyper intéressant, en tout cas son témoignage. Un contemporain, je vous dis son vrai nom, François Moriconi, ça vous dit quelque chose? Ah, vous le connaissez tous. Hein. Même époque, très curieux, François Moriconi, même époque, fait la même démarche, lui aussi, curieusement, fiche d'un richissime marchand d'étoffes italien, reçoit aussi l'appel de Dieu. Il quitte sa vie de luxe et décide alors, selon ses paroles, d'épouser dame pauvreté. Il se consacre à la prédication et gagne son pain par le travail manuel ou par l'aumône. Dans un premier temps, il reçoit un message de Dieu de reconstruire l'Église. Mais il comprend reconstruire les Églises. Il va donc se servir de la fortune de son père, dont il était l'unique héritier de son père, pour reconstruire des Églises en Italie, physiquement. Lorsque son père va le répudier, et lui demandera en justice, des comptes sur toutes les sommes dilapidées, François rendra à son père tout l'argent qui lui reste et enleva même ses vêtements qu'il avait sur lui pour lui rendre. Se trouvant alors tout nu dans le prétoire, il dira à son père devant la foule rassemblée lors de son procès, « Jusqu'ici je t'ai appelé père sur la terre. Désormais je peux dire notre père qui est aux cieux, puisque c'est à lui que j'ai confié mon trésor et donné ma foi. » L'évêque d'Assise l'enveloppa de sa cape, couvrit sa nudité et le prit sous sa protection. On le connaît sous le nom de François d'Assise. Une histoire en résumé. Ce sont des exemples extrêmes de personnes qui ont compris ce message et qui ont vécu leur vie éternelle sur la terre, déjà. Merci à Dieu, au travers de sa connaissance et de sa parole, de nous donner la possibilité de réaliser ensemble, dès maintenant, la vie éternelle. Je vous invite à un moment de silence, et puis nous prendrons après la scène. Seigneur, le jour où tu as parlé à notre cœur, pour la première fois où tu nous as fait comprendre que notre vie était en toi, tu nous as déjà donné cette vie. en puissance. Elle doit comprendre que nous pouvons la vivre dès maintenant avec toi ici, avec nos frères et sœurs. C'est une bénédiction que tu nous donnes et nous voulons, Seigneur, la saisir, l'attraper et vivre avec tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie avec toi, Seigneur, pour l'éternité, dès maintenant et à jamais. Amen. J'invite Pierre et Déborah à s'approcher. Nous voulons prendre la scène. Et nous voulons prendre cette scène dans, justement, dans ce commencement qui est le partage du sang du Christ à la croix pour chacun de nous et pour l'ouverture à cette vie. Et nous savons que ces symboles, ce ne sont que des symboles, mais qui nous rappellent la souffrance du Christ, la mort du Christ, le sang versé, mais aussi le partage, la communion et l'appel du Christ à faire ceci en mémoire de lui jusqu'au jour où il revient pour vivre ensemble avec lui dans l'éternité et l'accomplissement donc de ses promesses. Nous voulons prier pour ce sacrifice. Je demande à Déborah de remercier pour le corps du Christ qui a été rompu pour nous.
Père, merci. Merci pour Jésus. Jésus, avec ses amis intimes, a institué ce repas, cette scène. Il l'a désiré fortement. Et ensemble maintenant, autour de ces symboles, nous voulons nous rappeler de ce qu'il en a coûté, de ce qui t'en a coûté, Jésus. Merci. Bénis maintenant ce pain que nous allons partager ensemble en mémoire de ce corps sur la croix brisée. Merci, Jésus. Amen.
Prenez, mangez, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Dans la nuit où il fut livré, à la fin du repas, le Christ prit la coupe, la bénit en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci à mémoire de moi chaque fois que vous la boirez. » Nous voulons remercier pour ce sang et pour tout ce que ce sang nous ouvre de vie avec notre Dieu.
Ah oui, Seigneur, oui, merci parce que on est partagé quand on vient devant cette table où il y a ce pain et cette coupe qui sont dressées, parce que on voit bien sûr les souffrances, on voit tout ce que tu as enduré, mais on voit surtout aussi que c'est un commencement, c'est un début. C'est le début justement de la vie éternelle, le début de la solution éternelle. Et vraiment, on veut te rendre grâce de ce que tu as fait à cette croix. C'est vrai que Dieu nous a donné la vie éternelle, ça c'est la certitude, il a donné, il a mis en nous cette vie éternelle. Et cette vie, elle est en toi, Seigneur. Et merci parce que tu nous rappelles, dimanche après dimanche, avec ces signes, que nous pouvons ainsi nous approcher de toi. Nous pouvons ainsi nous rappeler que nous aussi, en toi, nous avons cette vie éternelle. Et sois loué encore, Père. C'est avec cet esprit vraiment de reconnaissance que nous approchons encore devant toi. Et nous nous souvenons aussi de ce geste que tu as fait en voulant être avec ses disciples, parce que c'était ton désir, tu avais vivement désiré. Et tu nous rappelles ainsi qu'en toi, nous avons la vie éternelle encore ce matin. Et sois loué, Père, par ton œuvre à la croix. Et merci, parce que ce sang nous rend plus blancs que la neige, efface nos péchés, et par cela nous sommes parfaits, nous sommes aptes à vivre cette vie en toi. Merci vraiment encore, au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Avant de passer à un temps d'annonce, j'aimerais laisser la parole à nos invités ce matin, à une de nos visites, je dis plutôt qu'invités d'ailleurs, une de nos visites. On a eu pendant tout un temps, je ne me rappelle plus, un certain nombre de mois, Sarah Haddad, ici, qui est au fond, qui venait du Liban, vous vous souvenez. Et puis, on a la joie d'avoir... On a vu sa maman, déjà, aussi, ici. On ne connaissait pas encore son papa. Et je voudrais laisser un petit peu de temps à son papa pour qu'il vienne nous expliquer, entre autres, quelle est la situation des chrétiens au Liban et en Syrie, puisqu'il est pasteur dans cette région. Et on veut vraiment le remercier de ce temps qu'il nous donne maintenant pour venir nous parler. On prie souvent pour On ne sait pas comment prier pour nos frères et sœurs dans ces pays-là. Je crois que c'est l'occasion aussi qu'ils viennent nous, un petit peu nous dire ce qui se passe. Si tu veux bien venir, merci.
Sabah al-khair.
Bonjour à tous.
Ismi Milad Haddad.
Je m'appelle Milad Haddad.
Zawjti Huda.
Mon épouse Huda.
Nahna min Libnan.
Nous sommes du Liban.
من منطقة اسمها البقاع.
De la plaine de la Beka.
هاي المنطقة عمل الرب فيها من زمان.
Cette région, dans cette région, il y a l'œuvre du Seigneur depuis longtemps.
هي قريبة كتير على سوريا.
C'est très proche de la Syrie.
منشان هيك شو ما بيصير بسوريا لبنان بيتأثر
فيه. Alors tout ce qui se passe en Syrie de nos jours, le Liban s'affecte tout de suite.
طبعاً بكل بلد في تجارب مختلفة.
Dans chaque pays, il y a des épreuves différentes.
لكن عنا شيء مشترك.
Mais nous avons quelque chose de commun.
هو وعد الرب لنا.
C'est la promesse du Seigneur pour nous.
الإله القديم ملجأ.
L'ancien Dieu est le refuge.
والأزرع الأبدية من تحت.
Et ses bras éternels nous soulèvent.
بنحب نخبركم بسرعة.
On vous raconte vite.
شو يلي عم بيحصل ببلادنا.
Ce qui se passe dans nos pays.
بكل أسف بسوريا المشاكل الكبيرة هالأيام.
Dommage ces jours-ci en Syrie il y a beaucoup de problèmes.
لأنه في حرب واقعة.
Il y a une grande guerre.
ناس عم بتموت كل يوم بالمئات.
Beaucoup, des centaines de morts chaque jour.
خراب كتير.
Destruction.
وهيدا شيء محزن ترك تأثيره على الكنيسة.
Et c'est triste et ça a affecté l'église là-bas aussi.
ببعض المناطق في كنايس تدمرت.
Il y a des églises qui se sont détruites.
وكتار من المؤمنين تركوا سوريا وفلوا.
Et beaucoup de chrétiens ont quitté la Syrie ailleurs.
ونحن بلبنان عشنا هيدا الوضع من قبل.
Nous en tant que Libanais, nous avons vécu ça pour longtemps dans notre guerre.
لكن بهيدا الجو في كتار من الناس عم يجوا للرب.
Mais en fait, même au milieu de cette détresse, beaucoup de gens viennent au Seigneur, se convertissent.
والبعض منكم يمكن زار لبنان.
Peut-être quelques-uns de vous ont visité le Liban.
ونحن ما بننسى الأخ بريان وزوجته.
Nous n'oublions pas frère Brian et sœur Hélène.
يلي زاروا لبنان وزاروا بيتنا من ثلاث سنين.
Qui ont visité le Liban et sont venus chez nous depuis 2-3 ans.
ونحن هون بدنا نستغل الفرصة لنشكرهم. على صلواتهم وصلوات الكنيسة.
Et on profite du temps pour les remercier pour leurs prières et pour les prières de l'Église.
لما إجا الأخ بريون لعنا على الكنيسة وطلع على المنبر شفنا تاريخ مليان بالاختبارات.
Car lorsque frère Brian était chez nous, il a parlé pour l'église. On a vu vraiment toute une histoire pleine d'expériences avec le Seigneur.
وخبرنا خبر كان مفاجئ لنا.
Et il nous a surpris avec quelque chose qu'il nous a raconté.
سنة 1945.
En 1945.
كان رايح من بيروت على باريس.
Il voyageait de Beyrouth, Paris.
كان قاعد حده اول رئيس جمهوريه بلبنان وبشروا عن المسيح.
À côté de lui, il y avait le premier président du Liban et lui a raconté, frère Brian, c'est-à-dire lui a raconté du Seigneur, lui a présenté la bonne nouvelle.
فمنصلي حتى الرب يبارككم ويبارككم ويتمجد في خدمتكم.
Nous prions que le Seigneur les bénisse et bénisse chacun de vous et qu'il soit glorifié dans cette église.
المنطقة اللي بنخدم فيها منا مريحة أمنيا.
Là où nous servons le Seigneur, c'est pas du tout tranquille et calme.
آخر اختبار أخذناه.
Dernièrement, avant de venir.
بآخر حزيران.
Fin juin.
بيطلع انفجار بعيد عن بيتنا 100 متر.
Il y a eu une explosion juste à 100 mètres de notre maison.
كان 5:30 الصبح.
C'était 5:30 du matin.
وكان ابننا عنده تقديم.
Et notre fils, le Benjamin, avait son bac. Il présentait le bac.
وعينا على بكرة كلنا سوا.
Vraiment, c'était un grand choc pour lui.
طبعاً إيماننا عم يزداد.
Sûrement notre foi croît d'un jour à l'autre avec le Seigneur.
منحب الرب أكثر بهيدا الجو.
Et ça, avec, au milieu des souffrances et de l'insécurité, nous sommes beaucoup plus proches du Seigneur. Là-bas, les croyants témoignent de l'œuvre du Seigneur dans leur vie. Et ce que nous prions, c'est que la croix de Jésus reste soulevée au Moyen-Orient et à partir du Liban.
لأنه بعده لبنان البلد الوحيد بكل الشرق الأوسط يلي عيونادا فيه بحرية باسم المسيح.
Le Liban c'est le seul pays dans tout le Moyen-Orient où on peut parler de Jésus-Christ, même le président est toujours chrétien, nommé chrétien. Oui.
فنحن بنشكركم على هالفرصة.
Nous vous remercions pour cette occasion et pour ces
quelques minutes.
نشكركم
على صلواتكم لأجلنا.
Et nous vous remercions pour vos prières encore une fois.
ونحن بنصلي حتى الرب يحفظكم ويزيدكم ويتمجد.
Et nous prions que vous qu'il y ait encore plus de croyants dans ce pays, qu'il vous garde et dans vos enfants, dans toutes les générations aussi. Il y a un verset qu'on aimerait laisser. C'est, en fait, le matin, on a lu Psaume 33, mais grâce à Dieu, on a lu ensemble. Mais maintenant, alors, on vous confie ce verset de Deutéronome 33, 26-27. Yeshurun, aucun Dieu n'est semblable à ton Dieu. Plein de majesté, il chevauche les nuages et traverse le ciel pour venir à ton aide. Depuis toujours, il est ton refuge. Depuis toujours, sa puissance est grande ici-bas. C'est lui qui chasse tes ennemis devant toi et qui t'ordonne de les exterminer.
Amen.
Que Dieu vous bénisse.
Merci de votre témoignage. Je crois qu'on aura à cœur de continuer à prier pour vous, à prier pour tous les chrétiens dans ces pays-là. J'aimerais remettre aussi à vos prières, et je commence mes annonces avec ça, remettre à vos prières aussi Mélanie spécialement. Si vous n'étiez pas à la réunion de prière mardi, on était 16 personnes. Il en manquait moins que d'habitude, hein, ça veut dire. C'était chouette, on a eu un bon moment de prière, spécialement pour Mélanie notamment. Mélanie est repartie pour un mois à Madagascar. Elle a vraiment besoin de nos prières, donc on veut prendre du temps personnellement dans nos familles, dans nos prières personnelles, de porter Mélanie, que Dieu la garde pour ce mois et pour la suite qui sera sur Haïti ensuite. Donc on veut vraiment prier, elle en a besoin. Donc pensons vraiment à prier pour elle. Je voudrais donner les annonces pour cette semaine. C'est l'été, beaucoup de vacances, mais mercredi, il y a la chorale. Je répète, mercredi, il y a la chorale. Donc, voilà, 20h30 ici, important, hein, 20h30 ici. Samedi, c'est le grand jour. Ils sont en plein milieu, là. C'est le grand jour. Mariage de Mathieu et d'Anne-Laure. On se réjouit. Salle de la Chenaille, 15h. Voilà, vous êtes tous invités, salle de la Chenaille, 15h, pour ce grand moment du culte de mariage de Mathieu et d'Anne-Laure. Dimanche, notre culte ici, et dimanche, on aura aussi une surprise aussi ici. C'est Reynald Kosicki qui nous apportera le message. Reynald Kosicki est le président de la FEF, la Fédération protestante de France. Donc il vient pour le mariage. Fédération évangélique, j'ai dit Fédération protestante, excusez-moi. Merci. Merci, la FEF. Hein. Donc, nous sommes donc membres de la FEF et Rinald est président de la FEF. Voilà, donc on se réjouit dimanche aussi de vivre ce temps. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses à annoncer? Alors je vous invite à vous lever. Alors oui, on veut... Alors oui, c'est juste Pierre. Pierre, on veut d'abord prier pour votre protection à vous au Liban spécialement. Et c'est Pierre qui va venir. Tu veux venir ici? On veut s'associer dans cette prière en demandant à Dieu de vous bénir aussi là où vous travaillez.
Oui, notre Dieu, c'est vrai,
On veut encore se remettre entre tes mains. Et surtout, vraiment, te remettre toute cette église là-bas, dans la vallée de la Béka, tous ces chrétiens. Et puis au-delà, tous ces réfugiés aussi syriens, chrétiens, qui quittent peut-être aussi leur pays. Et c'est un désastre pour nous, spirituels, de voir cela, d'être témoins de ces choses. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas rester muets et venir nous approcher vraiment de toi, du trône de la grâce. Nous parlons souvent de ta puissance et nous demandons des œuvres puissantes là-bas qui se réalisent et qui se passent. Et merci de ce témoignage qui nous est donné ce matin, cette occasion encore de nous encourager à prier et vraiment te prie vraiment pour la protection particulière de nos frères et sœurs là-bas. Pour ces chrétiens qui sont encouragés par ton œuvre malgré tout ce qui se passe autour, qui voient de plus en plus justement la vie éternelle approcher, peut-être, parce qu'il y a des explosions, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a des meurtres. Tout cela, Seigneur, peut ébranler, et on te prie vraiment que tu les saisisses par la foi, les saisisses de façon entière pour qu'ils aient cette confiance en toi. Et vraiment, on te prie, surtout au-delà, avant que toute catastrophe pour leur protection, pour que tu les gardes dans leur santé, pour que tu les gardes dans leur intégralité et leur bien aussi. Vraiment que ta volonté soit faite. Et on te prie vraiment pour qu'il y ait une solution. Et merci de nous rappeler encore ce matin que, oui, le Liban, c'est le seul pays chrétien où librement encore ta parole peut être annoncée. Et on te prie que ce pays demeure ainsi et que d'autres pays puissent aussi ouvrir cette liberté, ouvrir d'accepter cette parole, qu'elle soit annoncée, qu'elle soit proclamée, et surtout que ton nom et le nom du Seigneur Jésus soient glorifiés. Oui, Père, on te prie vraiment pour ce pays encore, pour nos frères et sœurs ici. Et merci de les avoir donnés encore ce matin. Au nom du Seigneur Jésus, amen.
Voilà, je vous lis ces versets que vous connaissez, ces versets qui sont souvent affichés dans les églises, c'est pas ce verset-là, mais ces versets qui sont souvent fichés. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Avec cette bénédiction, je vous souhaite une bonne semaine à chacun. Gloire à Dieu. Amen.